Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Média, réalisé avec nos confrères de la Nouvelle République et du Courrier de l'Ouest, représenté ici aujourd'hui par Dominique Guinfolo et Guillaume Reynaud. Coralie Denou, présidente du département des Deux-Sèvres, est notre invitée. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Depuis juillet 2021, Coralie Denou, vous êtes la première femme à occuper cette fonction de présidente du département des Deux-Sèvres, la plus jeune également, en 38 ans. Votre parcours, on va en reparler. Comment on va aussi évoquer les dossiers locaux qui concernent évidemment les habitants du territoire, mais on ne peut pas commencer cette émission sans aborder l'actualité internationale et les opérations militaires russes en Ukraine. Inadmissible, avez-vous écrit hier.
Je crois qu'on est à un tournant de l'histoire. C'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'il y a cette impression d'être entre deux mondes. Ça paraît loin et en fait c'est si près. Je crois que ce qui se passe aux portes de l'Europe est grave et tout nous paraît futile depuis hier et pourtant la vie continue. Donc soyons attentifs et surtout ayons des pensées pour nos amis ukrainiens.
Alors la vie continue, la campagne présidentielle aussi, on sent que ça risque bien de perturber les choses.
Cette campagne était difficile, cette campagne le sera encore plus avec les événements internationaux. Mais là encore, on a la chance d'être dans un pays démocratique et le droit à la campagne, le droit à l'élection de notre président de la République doit aussi s'exercer malgré le contexte.
Alors, les élus locaux sont priés actuellement d'apporter leur parrainage. Est-ce que vous l'avez fait, vous, personnellement ?
Je ne l'ai pas fait, pour une raison toute simple, c'est que je crois qu'on a créé l'isoloir pour que le vote soit secret. Et je souhaite qu'il soit appliqué aussi aux élus. Donc, le vote, le parrainage, quand il sera anonyme, ça sera très bien. Mais aujourd'hui, je crois que quand on est présidente du département, on n'a pas forcément l'obligation de donner son vote.
Pourtant, beaucoup d'élus tiennent un autre raisonnement en disant c'est pas un soutien quand on parraine un candidat, c'est une participation, une validation d'une candidature à l'élection.
Oui, alors c'est en effet les deux peuvent se présenter, mais je vous cache pas que en tant que présidente, mais surtout en tant que citoyenne, je crois que je suis aussi perdue dans la politique nationale. Donc je vous avouerai que j'attends que tous les candidats soient révélés pour faire un choix.
Vous avez déjà été sollicité à de nombreuses reprises.
Oui. Oui, tout à fait.
Approché, comme on dit dans le jargon.
Complètement. Alors, il y a jusqu'au 4 mars. On verra, en effet, les événements internationaux changent beaucoup mon avis parce qu'à un moment donné, il y aura peut-être besoin d'une solidarité ou d'exercer peut-être un rôle démocratique. Donc, je me laisse jusqu'à la dernière date. Voilà.
Alors, on a bien compris que vous n'allez pas soutenir de candidat pendant cette campagne. Donc, pas de positionnement.
J'ai pas de positionnement sur cette campagne des présidentielles aujourd'hui. Il me manque un candidat de centre-droite.
Voilà, c'est votre positionnement, clairement. Ouais, centre-droit, on peut vous positionner de cette manière sur l'échiquier politique, très clairement.
Ah oui, très, très clairement et encore plus depuis que je suis élue présidente, parce qu'en fait, je me rends compte que sur la politique locale, on ne peut pas être clivant, on peut pas, il faut qu'on se préoccupe de chacun et donc oui, je me positionnerai sur l'échiquier plutôt de centre-droite.
Donc quand Emmanuel Macron sera candidat, vous le soutiendrez?
Je sais pas, Emmanuel Macron est de centre-droite. En tout cas, on a jusqu'au 4 mars et donc j'ai bien la date en tête.
Alors tout ceci nous amène à votre parcours, votre entrée en politique, ça remonte à 2012, on a regardé un petit peu, et c'était au moment des législatives, vous étiez la suppléante de Jérôme Baloge, battue à l'époque par Geneviève Gaillard sur la circonscription de Niort. Comment ça s'est opéré pour vous, cette entrée en politique ?
Eh bien, de manière un petit peu surprenante, puisque je suis issue d'une famille où on parle politique, mais autour de la table lors du dîner, donc J'avais jamais été encartée, jamais militante, je n'avais jamais été à une réunion politique. Et Jérôme Baloge m'a contactée quelques semaines avant les élections législatives pour en effet me demander d'être la suppléante, je pense liée à mon statut de jeune femme en Gâtine et chef d'entreprise, donc plutôt de la société civile. Je crois que c'était le profil recherché.
Alors une défaite à l'époque, comment vous l'avez encaissée ?
Alors je l'ai pas du tout vécu comme une défaite personnellement. Alors certainement pour Jérôme Baloge c'était différent, mais moi j'avais surtout gagné une expérience incroyable avec cette entrée en politique, avec ces rencontres, avec cette façon de voir les choses et comment on peut changer et on peut être dans l'action sur son territoire. Donc j'avais absolument tout gagné avec bien sûr un résultat, mais l'histoire montrera que ce n'est qu'une façade, ces élections.
On vous retrouve ensuite en 2015 pour les départementales.
2014 avant, ouais.
2014
pour les élections européennes. Et c'est vraiment un autre moment. 2014, Elisabeth Morin-Chartier me demande de représenter les Deux-Sèvres sur la liste. Alors je suis non éligible, donc il n'y a pas de pression particulière. Mais par contre, là, je découvre la politique nationale. Et petite gâtinaise que je suis, de dîner avec des Bruno Le Maire, des Jean-Pierre Raffarin, c'est quand même juste un rêve éveillé. Voilà. Parce que, étant ado, je lisais plus Le Monde des ados que Jeune et Jolie. Donc c'était un très bon moment, 2014.
Alors 2015 ensuite, élection départementale, et là vous êtes élu avec en binôme avec Hervé de Talouet 3. Comment s'est opéré justement le fait d'être en binôme avec Hervé de Talouet 3?
Eh bien, alors il faut resituer 2015, la loi sur la parité, la reconstitution des cantons. Donc le canton de la Gâtine rassemble 4 anciens cantons où il y a 4 conseillers généraux hommes, donc ils sont obligés d'aller chercher une femme. Et c'est Hervé Talouet III donc, qui est désigné comme l'homme candidat. Et il me passe un coup de fil, je me souviens parfaitement, j'étais en voiture à mon plaisir. Et il s'engage une discussion, je ne le connaissais pas du tout, mais quelle belle rencontre qui marquera ma vie, ça c'est une certitude.
La politique, un univers plutôt masculin, mais vous étiez déjà baigné dans un univers masculin de par votre métier. Vous êtes dans le négoce de bestiaux. On imagine vraiment un homme, un milieu d'hommes, hein, prioritairement, majoritairement.
Alors oui, je suis née dans ce milieu-là avec mes parents. Et c'est un milieu masculin, mais j'irais même au-delà, c'est un milieu macho. Et par contre, quel respect pour les femmes qui assurent leur place. J'étais une princesse dans ce milieu-là. Voilà. Par contre, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. C'est des valeurs que m'ont transmises ma famille et qui me sont bien utiles aujourd'hui.
Dominique ?
Oui, vous disiez les hommes à cette époque-là, enfin les élus, étaient obligés de chercher des femmes pour répondre à la loi sur la parité. Vous pensez que il fallait ce levier, ça n'aurait pas avancé sans ça ?
En 2015, j'étais vraiment contre cette loi de parité parce que je me suis dit c'est quand même horrible de devoir aller chercher des femmes pour des femmes. Pour moi, on accède aux fonctions de par les compétences, de par l'envie, de par l'investissement. Aujourd'hui, juste 6 ans après, on ne se pose même plus la question des femmes en politique. Et pour l'anecdote, si je n'avais pas eu à faire la parité dans mes vice-présidents, je n'aurais quasi que des femmes dans vice-présidente. Donc les femmes ont pris pleinement leur rôle et finalement, cette loi de la parité, on n'en parle déjà plus. C'est une évidence. Donc oui, aujourd'hui, je suis convaincue qu'il fallait passer par ce texte législatif, même si au début, il peut être un peu frustrant, mais il était très certainement indispensable.
Vous avez créé, je crois, le collectif Entreprendre au féminin. Je ne sais plus en quelle année.
2010.
Mais ça faisait partie de cette envie de défendre la cause féminine.
Oui, parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle. J'ai rencontré vraiment des gens qui m'ont amené à grandir. Et c'est vrai qu'en 2009-2010, donc il y a la création d'Entreprendre au féminin, qui est... ça paraît pas loin et pourtant il y avait très peu de femmes chefs d'entreprise ou engagées Et ça, c'était une façon de d'avoir une action pour défendre des grands projets, un petit effet papillon à la hauteur des actions qu'on pouvait mener, mais c'était une sacrée expérience.
Est-ce que lors du précédent mandat, vous projetiez sur une éventuelle présidence? C'était déjà, vous étiez en, allez, on va dire en formation, en tuilage, ou pas du tout?
Pas du tout. C'était pas prévu. Ça s'est organisé sur les derniers mois avant l'élection. Non, par contre, j'ai appris beaucoup quand j'ai eu la délégation tourisme, donc 3 ans en 2018. Et c'est vrai que là, ça a été un bel apprentissage, mais sans objectif. C'est ce qui me rend imprévisible, c'est que je n'ai pas d'objectif politique.
Oui, parce que vous aviez cette délégation, mais vous n'étiez pas vice-présidente. Alors, c'est vrai que quand on regarde qui parmi les potentiels, on va d'abord regarder les vice-présidents, vice-présidente, vous n'en étiez pas. Ça n'a pas été un frein à votre progression que de sauter cette étape?
Non. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait une différence. J'ai été vice-présidente avant ou pas, je pense que ça marque pas du tout ma présidence aujourd'hui.
Le fait d'être la binôme d'Hervé de Talouet III, ça vous donnait aussi peut-être une position particulière pour lui succéder?
Ah non, au contraire.
Non.
Au contraire, il avait peur que je sois accusée de favoritisme pour lui succéder. Donc, il était d'une grande exigence avec moi. Il connaissait cette politique d'avant où, en effet, il fallait être conseiller départemental pendant un ou deux mandats, être vice-président et puis après peut-être être président. Donc, non, ça. Par contre, il m'a été d'une grande aide parce que à mon arrivée en 2015, il m'a transmis tous les codes politiques, tous les codes de la vie politique, et il a toujours été auprès de moi.
Alors malheureusement, il ne peut plus vous accompagner, sa disparition tragique en fin d'année, forcément un drame. Comment vous l'avez vécu?
Mais vous l'avez bien résumé, c'est un drame. C'est une personne qui, au-delà de la politique, qui m'était chère, et je crois encore que l'amitié est possible en politique. C'est quelqu'un qui manquera à notre Gâtine, et c'est quelqu'un qui restera dans mon cœur à tout jamais. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué ma vie, un grand homme.
Il vous a soutenu au moment de l'élection, en juillet, 1er juillet 2021. Cette élection, on s'en souvient, elle n'a pas été facile. Parce que votre camp était largement en tête. Hein. On se dirigeait vers, peut-être vous pouviez l'espérer, une élection assez facile, assez tranquille. Ça n'a vraiment pas été le cas. On rappelle le contexte. Hein. Rosemary Nieto s'est présentée également dans votre camp. Et vous l'avez finalement emporté au troisième tour à la majorité relative avec 16 voix sur 34. Chantal Brio, pour la gauche, était également candidate. Voilà, ça a été compliqué. Est-ce que tout cela est digéré maintenant?
C'est digéré et on a été au travail dès le lendemain. C'est une élection compliquée et pourtant, elle en a été que plus belle aujourd'hui. Parce que, il faut quand même rappeler qu'à la primaire, trois quarts quand même de mes collègues dans la majorité m'avaient choisi pour être leur présidente. Donc les jours qui ont suivi ont en effet amené à cette élection. Mais au-delà de ça, ce qu'il est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une équipe qui est fédérée, d'élus, une équipe au travail au niveau du département. Et en fait, ça rend l'élection plus belle parce que oui, elle a été difficile, mais par contre, on a réussi après à justement travailler ensemble, à ce que chacun ait un rôle, à ce que chacun s'épanouisse dans sa fonction. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, on peut tous être fiers de ce qu'on a réussi après cette élection-là.
Alors, cette candidature de Rosemary Nieto, beaucoup y ont vu la main derrière de Jérôme Baloge. Est-ce que ça veut dire que vos relations sont maintenant compliquées avec le maire de Niort?
Jérôme Baloge est le maire de la ville-centre du département et je crois que, en tout cas pour ma part, l'intérêt, il se trouve dans les citoyens de Sévrien. Les Niortais sont de Sévrien, donc il n'y a pas de différence entre Niort ou les autres territoires. Et ça, c'est important. Je crois que mes collègues m'ont fait confiance aussi pour cette neutralité des territoires.
Vous évoquiez votre façon de gouverner. Elle était déjà bien claire dans votre esprit au moment de prendre les rênes.
Oui, pour l'anecdote, j'ai relu mon discours avant de venir vous rencontrer. J'ai relu mon discours que j'ai fait le 1er juillet à mon élection. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'aujourd'hui, je pourrais retenir le même discours, 8 mois après. Donc, on est bien sur la même ligne. La vision, elle est toujours la même. Les priorités sont toujours les mêmes. Ma façon de voir le collectif et une gouvernance partagée est toujours identique. Donc, le chemin est tracé et ça montre bien que je savais déjà où je voulais emmener mes collègues, les agents du département, vers quelle politique. Donc c'est plutôt bon signe, il y a une belle régularité en tout cas.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle de chacun est bien déterminé, que vous avez une vision sur tout ce qui se passe ou que vous déléguez énormément? Comment vous travaillez finalement?
Eh bien les deux, chaque élu de la majorité ont une délégation. Donc, sur différents sujets, ça peut être l'insertion, ça peut être la promotion des territoires, l'agriculture, etc. Donc, ils travaillent vraiment avec leur directeur pour faire émerger des projets. Et on est toutes les semaines en réunion, que ce soit de vice-présidente, président de commission, majorité. Et on partage. Et de toute façon, ils savent qu'ils peuvent venir le matin ou le soir. La porte du bureau est toujours ouverte. Donc, c'est une facilité aussi de communication. Je crois qu'il ne faut pas toujours être dans le protocole. Il faut pouvoir échanger facilement entre nous. Et c'est ce qui est fait. Et donc, il y a de nombreux schémas qui sont en route, de nombreuses réflexions autour des nouvelles politiques sportives, culturelles. Ça avance ensemble. Voilà. Mais je veille à avoir en effet cette vue de la politique globale du département. Puis j'ai des petits projets chouchous, bien sûr, que je garde quand même.
Oui, vous disiez chaque élu a sa délégation. Dans cette assemblée, quel rôle joue l'opposition? Quel rôle vous lui attribuez? Quel rôle vous lui laissez, entre guillemets?
Alors déjà, je ne l'appelle pas opposition, parce que je l'appelle le groupe de minorité, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de notion d'opposition entre nous. Il y a des accords, des désaccords, mais il n'y a pas d'opposition franche. Et par exemple, sur la politique d'intervention territoriale, donc toute la politique liée aux subventions, à les 45 millions qu'on a votés pour les communes et intercommunalités, eh bien, ils ont participé aux séances de travail, aux réunions pour la constitution de cette politique. Parce que j'estime qu'ils sont des élus de leur territoire et qu'on s'adressait à tous les maires et tous les présidents d'Interco. Donc, ils ont participé à la création de la politique avec nous. Voilà. Et quand il y a des sujets un petit peu importants ou des décisions qui doivent être vite prises, je pense notamment au baptême du bâtiment du manège au département au nom d'Hervé de Talouet III, eh bien, j'ai le numéro de Doric qui est leur président et on s'appelle voilà, et on se rencontre, on a des rencontres régulières pour parler des sujets. Alors, c'est une relation simple et fluide.
Alors cette relation avec l'opposition, le Courrier de l'Ouest, au moment de votre élection, vous décrivez dans un portrait comme fonceuse, audacieuse, bosseuse. Ça, vous allez plutôt apprécier, mais aussi comme clivante, selon vos adversaires politiques. Alors, vous voulez faire démentir cette notion de clivage?
Alors, ceux qui ont dit ça n'étaient pas le groupe de minorité, c'était un autre groupe ou peut-être même ça partait d'une personne. Je crois pas que c'est comme ça qu'on pourrait me déterminer après 8 mois de présidence. Je crois que avant de décrire les gens, il faut pouvoir les juger sur leur action. Et je crois que j'ai mené aucune action clivante depuis cette présidence. Il fallait me déterminer par des adjectifs négatifs. C'est celui-ci qui a été choisi. C'est celui-ci que j'ai pu démentir.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes plutôt pour un consensus mou?
Ouf, non. Non. Alors, je crois qu'on peut être dans le consensus sans que ça soit mou. Je crois surtout en la franchise. Je trouve que ça simplifie considérablement les relations entre les personnes sur les projets. Et il y a des projets où je dis non, et il y a des projets où, en effet, je les trouve intéressants et j'ai envie d'emmener le département vers ces projets-là. Être molle, je crois, ne peut pas être un qualificatif qui me soit donné. Voilà, mais plutôt la franchise.
Alors, fonceuse, audacieuse, bosseuse, par contre, ça vous va bien?
Bosseuse, je crois que mes équipes pourraient en témoigner à leur détriment très souvent, mais c'est pas, enfin, je viens du milieu de négoce de bestiaux, donc
on se lève de bonne heure,
on se lève de bonne heure, on travaille, on est investi pleinement. Vraiment, c'est ce que je vis là, j'ai décidé de le vivre pleinement, d'être investi pleinement pour les deux Sévriens. C'est tellement passionnant, tellement stimulant, tellement intellectuellement enrichissant que c'est que du plaisir. Jamais encore je n'ai vécu une contrainte. Alors il faut plutôt être en bonne santé pour avoir le rythme que j'ai, mais tout se passe bien. Et puis j'ai une famille qui est incroyable aussi, parce qu'on ne réussit jamais seul, il faut être très bien entouré.
Vous dites c'est stimulant. C'est quoi une bonne journée de président de conseiller de départemental? Je veux dire, après quel type de journée vous vous dites « Ah, c'est chouette
!» Oh, c'est souvent, c'est souvent. Je vous rassure, la journée... alors, je souhaite être toujours la première arrivée au département. Ça, c'est la culture du présentiel, du travail, voilà. Donc, j'arrive, je dis bonjour à la femme de ménage que je croise, parce que sinon, je ne la verrais pas. Et je crois que c'est important de la saluer, parce qu'elle participe aussi au travail du cabinet.
Alors, vous arrivez à quelle heure?
J'arrive entre 7h et 7h30 le matin. Et puis, après, se déroulent assez rapidement les différentes réunions. Alors, il y a des réunions très agréables, et puis d'autres moins. Tous les déjeuners sont bloqués jusqu'à la mi-mai, parce que c'est un moment que j'apprécie beaucoup. C'est un moment aussi où on peut échanger différemment avec nos interlocuteurs. Et puis l'après-midi, ça repart à travers des déplacements. Ça peut être, je fais aussi beaucoup de terrain, parce que je trouve que c'est là qu'on apprend, c'est vraiment sur le terrain. Donc des visites d'entreprise, la maison de la MDE, ce qu'on appelle la MDE de la Tiffardière. Voilà, donc soit dans le département... Après, il y a quelques déplacements à Paris également pour l'ADF, l'Assemblée des départements de France, pardon. Voilà, et puis le soir, soit c'est au milieu des parafeurs jusqu'à ce que la sécurité me fasse partir du département vers entre 21h30 et 22h, ou sinon, il y a bien sûr des événements qui font que il y a des choses à célébrer le soir aussi, donc voilà.
Ou des événements qui chamboulent aussi l'agenda, hein, évidemment.
Et ça se chamboule en permanence. C'est pour ça que je ne consulte mon agenda que le matin pour savoir ce que je vais faire dans la journée. Parce que de toute façon, sinon, c'est en permanence. Oui. Mais là encore, je parlais de ma famille qui m'entourait vraiment bien. Il y a une équipe qui m'entoure qui est exceptionnelle et qui suit mon rythme. Et ça.
Il le tient, oui.
Oui, oui, oui. Ils le tiennent en alternance. Hein. Ils s'alternent, ils font de la garde alternée avec moi. Mais c'est vraiment agréable parce qu'en fait, on travaille tous ensemble. Et enfin, vous savez ce que c'est le travail d'équipe quand tout le monde va dans le même sens, avec les élus, avec les équipes autour de nous, c'est que du bonheur, vraiment.
Ce département, quelle place il occupe dans la région, la grande région Nouvelle-Aquitaine? Est-ce qu'il a la place qui vous semble normale pour un département comme les Deux-Sèvres, ou est-ce que vous aimeriez qu'il soit mieux connu? Voilà, quelle est votre estimation sur ce sujet?
Alors déjà, sa place, il est tout au nord, il est assez loin de Bordeaux, donc c'est quand même, c'est pas une place la plus facile géographiquement. Par contre, c'est pas sa place dans la Nouvelle-Aquitaine que je cherche à valoriser, c'est sa place au niveau national. Et on a des richesses dans les Deux-Sèvres. On a des richesses, on sait y vivre, on sait y développer, on sait y éduquer nos enfants, on sait leur faire faire du sport. Et ça, je crois que d'ailleurs lundi, nous avons le lancement de la campagne d'attractivité pour attirer de nouvelles familles sur notre territoire, liées à la pénurie de main-d'œuvre, à la pénurie bien sûr des médecins également. Nous avons vraiment cette ambition pour les Deux-Sèvres de faire rayonner notre département et surtout que les Deux-Sèvriens soient fiers de leur territoire. Ça, c'est quand on est fier de où on vit, où on grandit, je crois qu'il y a déjà pas mal de choses de faites.
Concrètement, cette campagne d'attractivité, qu'est-ce que ça va impliquer? Qu'est-ce que ça va permettre? Comment vous allez vous y prendre pour rendre le département attractif?
Alors en fait, il va y avoir des spots publicitaires sur les grandes chaînes TF1, LCI, MyTF1, BFM TV. Donc une campagne nationale pour donc un spot un petit peu décalé parce qu'il faut bien faire la différence avec les grands et on veut jouer dans la cour des grands. Mais au-delà de la communication, il y aura une plateforme de conciergerie qui, avec une personne, Clarisse, qui s'occupera d'installer ces familles-là. Donc on a créé des partenariats non seulement avec les clubs des entreprises, le MEDEF, la chambre de commerce, les chambres consulaires, etc., mais aussi avec la fédération des notaires, les agences immobilières pour travailler à l'installation aussi en ordre d'immobilier hein, pour la famille. On travaille avec le DAZEN, bien entendu, pour accueillir les enfants au plus vite dans les écoles. Participer vraiment à cette installation, faciliter l'installation des gens qui veulent venir travailler et développer chez nous.
Évidemment, dans tout le département hein, serait concerné. Hein.
Dans tout le département, d'accord. Et d'ailleurs, lundi soir, sont invités les 20 plus grosses entreprises employeuses du département. Mmh. Et il y en a pour la moitié du Nord, pour la moitié du Sud. Et d'ailleurs, les mutuelles seront présentes également.
Voilà. Dominique,
je reviens à ma question, puisque vous parlez du département à l'échelle nationale, mais à l'échelle régionale, cette place du département, est-ce que vous la trouvez judicieuse?
En tout cas, on travaille à avoir un poids sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et là encore, l'humain a toute sa place, parce que je crois qu'on ne fait pas de politique par envoi de courrier, on fait de la politique en se rencontrant, en discutant, en se connaissant. Et aujourd'hui, que ce soit avec le vice-président Guillaume Rioux pour les Deux-Sèvres ou Alain Rousset, les relations sont bonnes et on est au travail et je crois en effet que notre vice-président de la région partage le souhait de pouvoir défendre notre département.
Je reviens à cette campagne d'attractivité. C'est le bon moment pour le faire. Les urbains ont envie de revenir un petit peu au vert. Les entreprises recrutent. Tous les voyants sont au vert pour ce type d'action, de campagne. Combien vous investissez clairement sur ce type de campagne?
Alors, tous les voyants sont au vert, ou je dirais plutôt qu'ils sont au rouge justement dans nos entreprises. La première remontée, il y a quelques années, quand on croisait les chefs d'entreprise, ils nous disaient, ils nous parlaient d'accès à l'emprunt, ils nous parlaient. Aujourd'hui, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Nous n'avons plus assez de personnes pour permettre le développement et assurer la pérennité de nos entreprises. Vous allez me dire, c'est un problème de riches. Mes collègues présidents de département me disent, oh ben, c'est vrai, c'est dramatique d'avoir un taux de chômage à 5,4. Mais oui, vraiment, c'est vraiment une problématique. Beaucoup de turnover, voilà. Donc, il fallait qu'on fasse quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser nos chefs d'entreprise avoir cette difficulté-là. Ça, c'est, donc, on était prêts à investir le département. Parce qu'on a cette force de frappe qu'ont peut-être pas les agglos ou les communautés de communes. Donc on va pouvoir mettre cette force à leur service et en même temps on est quand même assez proche pour bien connaître géographiquement les installations.
Le recrutement, oui, il y a des besoins. Le logement, ça risque de poser des difficultés par contre. Hein.
Oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'au-delà des notaires et des agents immobiliers, seront présents les bailleurs sociaux qui sont prêts aussi et qui connaissent la problématique. Donc c'est une problématique qui concerne tout le monde, privé, public. Donc à nous de faire tout ce qu'il faut pour accueillir au mieux ces familles.
Je reviens au budget de la campagne, ça doit être assez important quand on touche les chaînes de télé par exemple. Il faut mettre le paquet.
Vous savez, on l'a déjà fait pour la campagne Escapade en Deux-Sèvres. On l'a refait aujourd'hui. Je crois que la gestion qui a été faite par la majorité précédente sur 6 ans nous permet aujourd'hui de pouvoir engager des actions comme celle-ci sans pour autant amputer le budget. Donc aujourd'hui, on le fait parce qu'on peut le faire et qu'en aucun cas, ça ampute nos autres politiques. C'est à peu près autour du prix de la flamme olympique.
Donc 150 000 euros.
C'est ça. Bah,
puisque vous parlez de la flamme olympique, on va l'aborder tout de suite. On s'y était mis dans les sujets à aborder, peut-être sur la fin, mais on va en parler tout de suite. Cette flamme olympique, ça a beaucoup fait parler. Dans certains départements, en Deux-Sèvres, il n'y a pas eu de débat, on a l'impression. Vous vous êtes inscrit complètement dans cette démarche. On rappelle que le comité d'organisation demande un ticket d'entrée à 150 000 euros. Pour pouvoir voir passer la flamme en 2024, avant que ne soient lancés les JO de Paris, 150 000 euros, ça ne vous a pas fait tiquer ?
Si, ça m'a fait tiquer. Je vous confirme, gâtinaise que je suis, dès qu'il faut sortir de l'argent, c'est toujours compliqué.
Le ticket vous a fait tiquer, oui, c'est ça.
Le ticket a fait tiquer, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut mettre le feu au sujet. 150 000 euros, je peux comprendre que pour les citoyens, ça fasse le prix d'une maison, hein, grosso modo. Donc c'est important. Mais, et c'est un sujet qui a été... mis à discussion dans notre groupe de majorité, parce que c'est une décision que je ne voulais pas prendre seule, ni avec le délégué au sport François Gingros. Et alors ça a été à l'unanimité. Ça a été 150 000 euros pour faire une grande journée accessible à tous, quel que soit son âge, quel que soit son milieu social, quelle que soit sa géographie de territoire. C'est pas seulement un passage, la flamme elle va s'arrêter 5 fois sur le territoire, donc 5 villes, collectivités qui vont pouvoir fédérer les clubs sportifs, nos collégiens, nos jeunes. Comment on pouvait priver nos deux Sévriens de ce beau cadeau? Et vous l'avez dit, c'est Paris 2024. Eh bien non, je crois que c'est aussi France 2024. Et le fait que la flamme passe sur nos territoires ruraux, c'est un message fort. Et on voulait faire partie de cette grande fête parce que c'est un ticket d'entrée pour la journée, mais c'est aussi un ticket d'entrée qui va nous permettre d'animer nos collèges pendant des semaines et des mois avant. Ça va nous permettre de pouvoir faire des actions avec nos clubs sportifs. Ce que je regrette, c'est qu'on l'ait annoncé dans un climat polémique, alors que nous voulions en faire un vrai et beau cadeau pour les Deux-Sévriens. Donc ils auront un vrai et beau cadeau qui réunira toute notre population, et je m'en réjouis à l'avance. Et puis, pareil, ça n'amputera pas, c'est un budget exceptionnel, ça n'amputera pas les autres politiques sport. Je rappelle, c'est 39 centimes par Deux-Sévriens. Je pense que le département devrait se relever de cette dépense-là.
Alors, justement, dans le cadre de ce soutien au milieu sportif, vous avez accompagné aussi les clubs en permettant d'avoir accès à des licences moins chères. Là aussi, ça fait partie d'une politique assumée.
Oui, alors c'était une politique de relance liée au Covid, non seulement pour accompagner les familles qui étaient dans le doute combien de semaines ou de mois va pratiquer de sport ou le piano ou toutes sortes d'activités culturelles. Donc les parents ont hésité à prendre une licence, donc ça c'était un élément qui leur permettait de moins hésiter. Et puis de l'autre côté aussi de soutenir les clubs qui risquaient de voir le nombre d'adhérents chuter, les recettes chuter. Et donc c'était une manière en effet de pouvoir les accompagner. C'était un plan de relance, Covid. On est quand même un peu en train de sortir de cette situation. Donc ça a été annoncé, ça ne sera pas reconduit. Et ça ne sera pas reconduit également parce qu'en fait l'État fait déjà un passe sport. Et je crois qu'il faut qu'on accompagne différemment. Ça ne sert à rien de faire un doublon. Donc justement, ça fait ces réflexions-là sont mises sur la table en ce moment par François Gingros pour la politique sport.
Alors ça fait partie de l'attractivité aussi d'un département, hein, que d'avoir un tissu associatif qui soit fort, solide, c'est indispensable, surtout alors en milieu rural encore plus, où il faut vraiment créer les occasions de se rencontrer.
Tout à fait, et encore plus à la sortie de ce Covid. Donc on réfléchit vraiment à créer ces moments-là, ces moments de fête populaire où chacun arrive, pour pas reprendre une publicité, mais chacun arrive comme il est et a le plaisir de rencontrer les gens. Donc notre tissu associatif est important, quel qu'il soit. Et particulièrement, on sera vigilant sur celui qui accompagne notre jeunesse de Sévrienne.
Sur l'attractivité, on a quand même ce manque de visibilité. Quand on parle des Deux-Sèvres à l'échelle nationale, il y a un déficit. Vraiment, on part de loin quand même. Hein.
Mais quel avantage ! Vous allez me dire, je suis une grande optimiste. Mais quel avantage ! Parce qu'il y a un petit côté Christophe Colomb qui découvre les Amériques. Et ça, on l'a encore. On est encore une destination confidentielle. Et il y a une vraie clientèle pour ces destinations qui sont un petit peu moins connues, qui amènent autre chose, qui amènent ce confort et ce luxe à la campagne. Je peux vous assurer que je ne crains pas que les Deux-Sèvres soient la destination à venir.
Alors c'est un trait de votre personnalité, ça, de voir les choses du bon côté, d'une manière optimiste.
Oui, sans pour autant se cacher derrière les choses. Mais si moi-même, je n'emmène pas ni mes équipes, ni les Deux-Sèvriens vers quelque chose de positif, je ne suis pas là pour les enterrer et pour créer du négatif. Je suis lucide, mais par contre, je crois qu'il faut essayer de voir les choses du bon côté, parce qu'on est plus efficace et efficient quand on voit les choses du bon côté.
On vous attend aussi beaucoup, Coralie Desnous, sur certains sujets structurants. On pense ici notamment à la RN 149, endeuillée à plusieurs reprises ces derniers mois, mais depuis des années et des années, c'est un axe très fréquenté et très accidentogène. Il est vraiment temps de faire quelque chose sur cette route. Et il y a peut-être une possibilité avec la loi 3DS qui a été adoptée il y a quelques jours. Expliquez-nous, Coralie Desnous, comment le département peut-être agir sur cette route.
Alors, en effet, ça a été un des premiers dossiers qui a été engagé par le département. Je crois que en tant qu'élu, que ce soit une route départementale, une route nationale, peu importe, nos citoyens nous attendent sur cet axe-là. Alors on a une fenêtre, en effet, qui est la loi 3DS. Nous avons réussi avec l'Assemblée des départements de France à justement qu'on puisse imaginer un transfert des routes nationales vers le département. Alors là, la question c'est oui, mais le financement, parce que on peut pas, enfin, l'État ne fait rien sur cette route nationale, mais on peut pas continuer à avoir un accident d'une telle gravité chaque semaine. C'est pas possible pour nous élus. Donc le financement, justement, nous sommes en train de travailler et j'ai intégré le bureau de la fondation de l'Institut de la gestion déléguée qui regroupe tous les services délégués de l'État, mais surtout et y compris les concessionnaires d'autoroutes qui sont aujourd'hui concessionnaires d'État. Et en fait, nous souhaitons faire évoluer les outils législatifs pour que la concession d'État puisse être mise sur la concession de département. Alors, c'est pas forcément avec péage, mais pour nous, c'est la comptabilité publique, mais ça nous permettrait d'investir tout de suite, massivement, et de pouvoir payer sur plusieurs décennies ces travaux-là. En tout cas, ce que nous voulons, c'est récupérer cette route nationale pour la sécuriser et puis pour en faire un vrai vecteur d'attractivité pour le nord du département.
Alors, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une 3 voies, une 4 voies entre Bressuire et Parthenay. Qu'est-ce qui est imaginé ?
Alors, pour l'instant, rien n'est imaginé. Il y a eu des études de fait. Si c'était sur certains créneaux, parce que c'est des emprises foncières qui sont quand même très importantes, il y a des études qui doivent être faites pour des études environnementales, notamment. Donc, c'est un très long terme. Si déjà c'était une 3 voies, ça serait parfait. S'il faut une 4 voies pour sécuriser, pour rendre plus attractif, ça sera une 4 voies. En tout cas, il faut vraiment sécuriser cet axe-là. On ne peut pas permettre qu'il y ait des personnes qui perdent la vie sur cette route-là parce que rien n'est fait. Ça, je ne le permettrai pas encore pendant 20 ans.
L'option, c'est plutôt d'aménager l'existant, pas de repartir sur un nouveau fuseau.
C'est plutôt d'aménager l'existant, sauf bien sûr déviation de bourg pour sécuriser ces bourgs-là.
Donc entre Bressuire et Parthenay, est-ce que entre Parthenay et Poitiers, il peut y avoir aussi un intérêt du département ?
Oui, alors nous réfléchissons sur l'axe Bressuire-Poitiers. Et d'ailleurs, je suis en discussion avec mon collègue Alain Pichon, président de la Vienne, qui m'a confirmé en effet nos collaborations pour l'itinéraire Parthenay-Poitiers.
Alors est-ce qu'on se fixe une échéance ?
Alors, moi, j'ai fixé l'échéance du premier coup de bulldozer avant la prochaine élection. Là, on m'a parlé d'optimisme, en effet. Mais à un moment donné, si en effet on ne met pas une date, il n'y en aura jamais. Donc nous avançons le plus vite que nous pouvons. Et j'espère que oui, un dessin sera donné dans les 5 ans à venir.
L'avantage, c'est que le mandat est assez long, hein, je crois, de 2028.
Oui, il a un an de plus que d'habitude parce qu'il est percuté par la prochaine élection présidentielle. Oui. Donc nous vivrons deux élections présidentielles dans ce mandat départemental. Mais c'est bien, il le faut, et surtout avec les grands projets que nous avons à mener, les routes, les collèges, voilà. Donc il y a des grands projets.
Est-ce qu'il y a d'autres routes nationales en Deux-Sèvres qui intéressent également le département ?
Alors, il y a donc la 149, ça c'est une évidence. Il y a un petit bout de M en fait entre la sortie d'autoroute vers Poujoula, pour que tout le monde s'oriente vers Poujoula pour rejoindre la voie de Mosée-sur-le-Mignon, donc pour aller vers La Rochelle. Voilà, donc c'est un petit bout. Il est beaucoup moins accidentogène, mais si on reprend les routes nationales, on les reprendra toutes. Et puis dans les grands projets routiers, on a également l'embranchement de l'A83 à hauteur de Villiers-en-Plaine, qui est un projet qui date déjà depuis 15 ans. Et voilà, pour tout vous dire, j'ai vu Vinci hier, donc c'est un projet qui avance également.
On parle de plus en plus aussi d'alternatives à la route, à la voiture. Le département, est-ce qu'il a d'autres visions que justement ces routes nationales et les routes départementales qui sont déjà de sa compétence ?
Alors, il faut, j'entends les sujets autour du vélo, autour des mobilités, il faut quand même... Rester concret, le véhicule routier reste le vecteur de mobilité principal sur les territoires ruraux. Or, peut-être plus agglo ou centre-ville, où là, en effet, les déplacements sont différents. Mais ça, c'est pas du tout de notre compétence. Nous, on veille à ce que les gens puissent aller d'un point A à un point B. Les mobilités douces font partie des projets, parce que c'est important. Mais mettre des vélos sur une route départementale Parthenay à Niort, on prend toutes nos compétences sur les itinéraires comme la vélo française. On a développé la V93, la V94, mais également pour le nord, ça va être l'axe vers le Maine-et-Loire, vers la Vendée. Donc il y a de nombreuses constructions d'axes sur la mobilité douce, mais plutôt de manière touristique. Voilà, c'est pas autour des mobilités professionnelles.
Sur la desserte de l'hôpital, il avait été annoncé un délai à mai 2022. On est dans les clous, on est dans les temps.
Je crois que c'est juin, c'est prévu. Donc c'est bon, étant donné le contexte, on devrait avoir quelques semaines de retard, mais on est bien sur la fin du premier semestre. Hein. Oui, tout avance bien pour le moment.
Alors à propos des routes, vous serez avec Philippe Brémond le 7 prochain pour animer un chat, un live, en tout cas un exercice de communication directe avec les habitants. Ça fait partie aussi du style que vous voulez imprimer, ça, ce type de rendez-vous ?
C'est pas un style, je crois que c'est surtout un besoin pour notre démocratie, aussi locale soit-elle, parce que... nous avons besoin de discuter en direct avec les concitoyens. Enfin, moi, ça me fait pas peur. J'ai besoin d'entendre ce qu'ils ont à dire du moment que c'est fait respectueusement et qu'on puisse discuter. Nous avons donc fait ce premier rendez-vous avec vous sur le thème de l'insertion au mois de janvier, qui a bien fonctionné. Ça a passé une vitesse incroyable. C'était même d'une grande frustration. Et là, c'est le sujet du 7 mars avec Philippe Brémond. Ce sont les routes. Et donc, j'invite tous les deux Sévriens. C'est très simple. C'est un Facebook Live. Donc, c'est vraiment très facile d'accès. Et les gens posent des questions. Et moi, je les vois s'afficher. Et on y répond. Il n'y a pas de filtre. Voilà, c'est vraiment... Je ne peux pas me déplacer partout. Même si on essaye de le faire un maximum, mais c'est une façon aussi que les concitoyens viennent à nous, et on sait ô combien le sujet des routes est un grand sujet.
Autre réseau, la fibre. Elle est de plus en plus nécessaire pour l'économie, les loisirs, pour tout maintenant. On en est où là justement du déploiement de la fibre dans lequel le département joue un rôle via un syndicat?
Oui, alors on l'avait annoncé, 2025, le territoire des Deux-Sèvres 100% fibré. Aujourd'hui, si on reste un petit peu sur le nord, le côté Bressuirey, c'est en effet un dossier qui avance bien. 93% du territoire autour de Bressuirey est fibré. 70% je crois à peu près sur Bressuirey même. Donc les travaux avancent bien, et là aussi les délais seront tenus pour un territoire 100% fibré en 2025.
Alors c'est essentiel, on parlait de l'attractivité du territoire, il faut vraiment être au top sur ce plan-là, sinon on ne va pas attirer les urbains, ça paraît évident.
C'est une certitude, et ça s'est accéléré avec le Covid, le télétravail, le travail à distance, c'est encore deux choses différentes. La fibre est un des vecteurs de l'attractivité, comme peut être la santé et l'implantation des médecins sur notre territoire, comme l'est l'éducation de nos jeunes. Il y a comme l'emploi, on en a parlé. Tous ces facteurs-là sont facteurs d'attractivité, donc on les travaille tous de manière parallèlement, mais tous en même temps, parce que c'est ça qui rendra en effet notre territoire attractif.
Alors la démographie médicale justement, un sujet très, très inquiétant, comment le département peut agir à ce niveau-là?
Alors, il y a deux ans, on a lancé le plan santé 79, qu'on continue, qu'on renforce, bien entendu. Là, il va y avoir un contrat ambition qui va être sorti pour accompagner les collectivités, mais également les privés, à construire du bâtimentaire. Donc parce qu'on voit bien que les maisons de santé pluridisciplinaires sont une des solutions, et que les jeunes médecins veulent être regroupés, et ça peut s'entendre. Donc on continue, on verse des bourses aux spécialistes, aux médecins généralistes. Mais nous, comme beaucoup d'autres départements, parce que c'est vraiment une problématique nationale. Mais on n'est pas les derniers, on est plutôt offensifs sur le sujet.
Sur ce sujet, un débat remonte régulièrement. L'obligation d'installation, entre guillemets, ou on va dire une sorte de règle de prêter pour un rendu, on finance un étudiant et en échange on lui impose de venir dans un territoire dont la démographie médicale est défavorable. Vous avez quelle position sur ce type de dispositif, vous, sur ce type d'obligation?
Moi, je crois que c'est intéressant dans le sens où, en effet, il y a une problématique de démographie. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est d'être suffisamment attractif pour qu'ils viennent volontairement s'y installer et y rester. Parce que le souci, c'est qu'on est toujours à la course à l'implantation des médecins, et que si c'est pour venir 5 ans et puis repartir parce que finalement le territoire ne les intéresse pas, ça me gêne toujours un peu d'être dans l'obligation.
Oui, mais on peut partir du principe que les Deux-Sèvres gagnent à être connus en même temps. Vous disiez tout à l'heure, l'attractivité, c'est aussi l'exemple, quoi.
Ça, je vous l'accorde, une fois qu'ils sont implantés chez nous, voilà. Mais c'est un texte qui sera peut-être amené. Nous, on va déjà commencer, puisque avec le versement de la subvention au privé pour l'accompagnement bâtimentaire, nous demanderons en effet des contreparties, et notamment une contrepartie sur le temps d'installation des médecins, mais également sur le fait d'être des médecins maîtres de stage, parce que on sait que les jeunes médecins, plus ils viennent faire des stages, plus ils ont envie de s'implanter après où ils font leur stage. Donc il y aura quelques contreparties. Donc on n'est pas le Parlement qui impose les lois, mais dans notre département, on va quand même avoir quelques actions incitatives.
Sur l'accueil des personnes âgées, là aussi, il y a beaucoup à faire. Le département, qu'est-ce qu'il peut insuffler aussi pour permettre l'accueil dans les structures adaptées, le maintien des personnes à domicile? Comment vous œuvrez?
Nous sommes à un tournant justement de l'accompagnement à l'autonomie des personnes âgées. Les EHPAD aujourd'hui, et on en a tous été témoins par l'actualité très récente sur Orpea. D'ailleurs, des contrôles flash ont été faits sur le département Orpea et Korian, et il y a des difficultés de recrutement, mais comme à peu près tous les services à domicile et toutes les entreprises. Mais au-delà de ça, il n'y a pas aucune maltraitance dans ces établissements-là. Ça a été fait avec l'ARS. Aujourd'hui, le tournant, il est de se dire comment on accompagne au vieillissement. Mais l'EHPAD est une structure de soins aujourd'hui, est une structure où les personnes arrivent déjà de plus en plus dépendantes, de plus en plus âgées. Donc nous, au département, on réfléchit à accompagner l'autonomie à travers un nouveau parcours résidentiel, notamment. Et c'est quel parcours la personne âgée entre je suis seule dans ma maison, isolée, j'arrive encore à faire un petit brin de ménage, un petit brin de cuisine, mais je risque quelque chose si je me blesse, si je tombe, voilà. Et l'EHPAD, voilà. Comment on arrive à créer un habitat peut-être nouveau pour ces personnes-là, un habitat concentré qui permettrait aussi un service à domicile facilité pour nos associations de services à domicile et leur personnel. Donc, il manque un maillon aujourd'hui dans l'accompagnement au vieillissement à la population.
Est-ce que l'actualité récente, justement, et je rajouterais la canicule et la pandémie, n'ont pas montré aussi qu'on est arrivé au bout d'un modèle d'EHPAD où on allait au gigantisme, parfois avec des structures très lourdes, très compliquées à gérer, et on a vu que, par exemple, certaines petites structures qui n'avaient pas forcément la faveur des pouvoirs publics s'en tiraient mieux dans ces conditions quand elles pouvaient avoir un suivi plus précis des résidents.
Encore une fois, c'est la question de l'humain. Je rappelle qu'il n'y a pas que les EHPAD qui accompagnent à la perte d'autonomie. On a des foyers de vie également. En effet, c'est des petites unités où ça se passe très bien, où en effet il y a des charges fixes qui sont moins importantes. C'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir, c'est quoi l'EHPAD d'aujourd'hui. On a bien vu avec le Covid, les personnes âgées ne souhaitent pas aller dans ces structures collectives, et encore plus aujourd'hui, parce que de par le virus, hein, bien entendu, à ce moment-là, parce qu'elles n'ont pas pu voir leur famille pendant des mois et que ça a été un drame pour certaines personnes. Donc comment on accompagne ça en gardant et en permettant la liberté aux personnes âgées d'agir, de voir, de continuer à voir leur famille, de l'accueillir. Voilà, c'est toutes ces questions-là à laquelle il faut répondre aujourd'hui. Et il y a un schéma de l'autonomie qui va sortir pour le département dans les mois qui viennent.
Concernant les personnes handicapées, est-ce que le département peut, est-ce que le département doit faire mieux? Est-ce que vous avez des ambitions particulières?
J'ai envie de vous dire qu'on doit toujours faire mieux, parce que sinon on n'aurait plus grand-chose à faire. Et là encore, il y a la question de l'inclusion. Comment on arrive à faire de l'inclusion tout en permettant aux personnes en situation de handicap d'avoir un traitement différent? Où est l'inclusion? Où est la différenciation? Nous, au département, sur les personnes en situation de handicap, notamment, nous avons les enfants. Et donc, nous devons exercer notre compétence de transport des enfants en situation de handicap vers les écoles. C'est quelque chose, c'est un budget important, hein, pour le département. Nous avons décidé d'avoir un transport individuel pour la plupart du temps. Nous sollicitons aussi la possibilité pour les enfants d'être dans l'inclusion au niveau des transports. Parce que si demain ces personnes-là doivent travailler, eh bien elles doivent aussi être en capacité d'être mobiles. Donc c'est toujours la jonction entre le handicap, l'inclusion, et nous travaillons aussi bien entendu à l'inclusion de ces personnes-là dans le milieu du travail, parce que c'est ça qui leur rend cette indépendance, cette liberté. On revient à peu près au même sujet, hein, l'autonomie, c'est à travers les âges, mais à travers aussi les handicaps.
Comment on valorise aussi ces métiers qui travaillent autour du handicap, autour de l'accompagnement de la personne âgée? Là aussi, il y a des solutions à trouver impérativement.
Alors, il y a des solutions. Il y a des solutions financières qui ont été mises en place par l'avenant 43 dès le mois d'octobre, donc qui était une augmentation du salaire pour les personnes qui travaillaient, notamment dans les associations services à domicile. Et pas plus tard que vendredi dernier, donc il y a une semaine, il y a eu une conférence des métiers. Et justement, tous les oubliés du Ségur de la Santé, eh bien, les départements de France et le Premier ministre ont décidé d'accompagner financièrement ceux qui avaient été oubliés par ce Ségur-là, et le département fera face financièrement à l'augmentation ou par la prime à tout le personnel des services à domicile et bien au-delà, puisque c'est aussi le secteur médico-éducatif qui sera concerné. Mais il y a aussi l'attractivité et la pénibilité de ces métiers-là, parce qu'on est souvent sur des métiers qui sont à temps partiel. Et il y a aussi la reconnaissance de ces personnes-là qui vont à domicile, qui sont seules. Donc il va falloir créer aussi de l'attractivité, du dynamisme autour de ces métiers.
Il nous reste quelques minutes pour aborder notamment le salon de l'agriculture qui débute demain à Paris. C'est vendredi prochain que vous allez conduire une délégation de Sévrienne. Alors forcément, toujours avec la partenaise en vedette, c'est vraiment le fleuron de l'agriculture de Sévrienne.
C'est le fleuron de l'agriculture, mais lors de cette déambulation, alors c'est toujours tous les ans, hein, le vendredi, on le fait lors du concours de la partenaise, mais on visite quand même tous les producteurs. Bien sûr, que ce soit les mulets du Poitou, les chèvres caprines, les moutons, les autres races, bien entendu, nous sommes ravis d'aller les rencontrer, mais également ceux qui travaillent autour des céréales. Donc c'est vraiment une déambulation globale. Et puis, après moult péripéties, les Deux-Sèvres seront bien présents grâce à alors c'est pas un stand, grâce à un espace dédié à la valorisation des Deux-Sèvres.
Ça a été
compliqué, pour rien vous cacher, les équipes ont été incroyables, elles ont monté ce fameux stand un peu particulier en 3 jours, puisque lundi nous avons appris en effet que sinon on nous faisait payer l'emplacement sans qu'on y soit, donc il a fallu faire quelque chose. Donc les Deux-Sèvriens seront bien représentés au salon de l'agriculture, et bravo, j'en profite encore pour remercier la réactivité de nos équipes.
Alors concernant l'agriculture, vous avez lancé il y a quelque temps une grande enquête sur les habitudes de consommation des ménages de Sévriens. Derrière tout ça, c'est l'idée de voir comment on peut accompagner les circuits courts. C'est quoi l'idée de cette enquête ?
Alors le plan alimentaire territorial, en effet, fait partie des grandes politiques du département pour une alimentation en circuit court, bien entendu pour le privé, mais un axe aussi important sur l'approvisionnement des collèges pour permettre à nos jeunes collégiens de bien s'alimenter. C'est une solution évidente pour bien manger, certes, mais surtout faire vivre notre agriculture. Et si on veut que demain, nos agriculteurs continuent à entretenir notre campagne, eh bien, nous devons les faire vivre d'une manière qui permette de rémunérer leur travail. N'attendons pas les lois Egalim 2 qui sont des vraies usines à gaz. Et j'ose le dire à votre micro ce matin, parce que je le dis depuis des années avec la première. Je crois que c'est par l'action des consommateurs qu'on permettra à notre agriculture de vivre demain.
Loi Egalim qui fonctionne pas bien. On voit bien que les négociations ne se passent mal. Qu'est-ce qui se passe avec cette loi ? Elle n'est pas applicable ?
Mais là encore, remettons de l'humain dans les relations commerciales. Leclerc à Niort se fournit en partenaise directement à l'abattoir de Partenay. Enfin, arrêtons de compliquer la relation entre le consommateur, la personne qui les vend, qui commercialise, qui transforme, et l'agriculteur. Enfin, c'est simple de bien consommer, c'est simple de bien manger, et ça coûte pas forcément plus cher.
Les agriculteurs, justement, ils sont un peu pris dans un monde où on veut du bon produit, pas cher, et en même temps, on leur fait mauvaise presse aussi, on leur fait des procès, on attaque sur l'environnement, dans toutes sortes de domaines. Vous pensez que l'agriculture des Deux-Sèvres, elle est plus vertueuse, pas forcément plus vertueuse, elle est vertueuse en tout cas par rapport à d'autres territoires ?
Il y a une sensibilité particulière qui se dégage de l'agriculture de Sévrienne. Plus vertueuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a cette sensibilité dans le département. En effet, on a une sensibilité particulière à l'environnement et à la biodiversité. Nos éleveurs, ils doivent être accompagnés dans cette transition. Et ils y sont prêts, je crois. Mais par contre, arrêtons cet agribashing. C'est pas en leur tapant dessus qu'on va réussir à les faire progresser. Et ils progresseront quand le consommateur sera prêt aussi à acheter son produit. Et le surcoût, je vais vous dire, il est neutre parce que il faudrait compter le poids qui reste dans la poêle à la fin de la cuisson plutôt que le poids qu'on achète. Donc attention au rendement qualité-prix. Moi, je crois en tout cas dans la qualité de la production de Sévrienne, c'est une certitude.
Et aux vertus de la pédagogie, justement, pour pour que les consommateurs soient sensibilisés et convaincus. Hein, du bienfait d'acheter en circuit court ou auprès de producteurs de proximité, quoi. C'est ça
que justement le travail que nous faisons en approvisionnement sur les collèges, c'est sensibiliser nos collégiens, c'est sensibiliser nos consommateurs de demain, parce que on doit les habituer à bien manger simplement. On n'a pas besoin de plats préparés. Un bon steak avec une purée de patates, je vous assure que qu'est-ce que vous voulez qu'on aille demander de plus?
Alors, cette sensibilité particulière de l'agriculture des Deux-Sèvres, est-ce qu'elle se retrouve dans les projets de bassines?
Alors, je suis favorable aux retenues de substitution dans le respect du protocole, et justement ce protocole, il indique que ces retenues de substitution doivent servir la transition écologique et les pratiques agricoles. Et j'ai envie de faire confiance à nos agriculteurs pour justement travailler à ça. Les retenues de substitution, si l'eau qui est prélevée au moment de l'eau superficielle hivernale, voire printanière, permet cette transition des cultures, eh bien, il faut y aller. Et je rappelle que ces retenues de substitution servent au maraîchage bio. Enfin, il faut pas croire que c'est pour alimenter des plaines entières de maïs. C'est faux.
On touche au sujet de l'écologie. Comment le département se situe à ce niveau-là? Comment le département agit? C'est un sujet transversal? C'est abordé à la marge? Comment vous l'abordez, ce thème-là?
C'est un sujet qui occupe chacune de nos politiques. C'est un sujet qui fait partie du quotidien. Alors, on en a parlé, hein, le plan alimentaire territorial, c'est une manière déjà de faire de l'écologie, je crois, pragmatique, concrète, mais c'est une manière de faire de l'écologie. Mais je pense notamment au collège. Au collège, c'est un sujet important pour nous. On va être percuté par la loi neutralité carbone 2050. Et pour moi, il est hors de question de laisser à mes successeurs le fait de refaire 36 collèges qui répondront à cette loi neutralité carbone, qui, au-delà d'une loi qui nous est imposée, est indispensable pour notre avenir. Donc c'est pour ça qu'on a engagé le tour de tous les collèges et que nous commencerons à réinvestir dans les collèges pour en faire des collèges à zéro émission de carbone. C'est un grand travail. Ça existe dans d'autres départements. Nous allons justement les visiter parce que au-delà du confort des collégiens, nous sommes responsables de par nos investissements, nous sommes responsables de l'écologie et de demain et de notre environnement. Donc c'est transversal, c'est à travers nos politiques bâtimentaires, c'est à travers toutes nos politiques.
Les investissements récents, c'est par exemple le collège supérieur à la Bressuire, ça veut dire qu'il n'est pas zéro émission, il n'est pas neutre carbone, ce collège tout récent?
Il est récent, mais il est récent d'il y a quand même presque une décennie qu'il a été dessiné. Hein, donc il est récent, mais dans l'évolution rapide de nos attentes en termes d'environnement. Alors, je ne vous dirai pas exactement si... Je ne crois pas qu'il soit zéro émission de carbone, mais il a été réfléchi, comme il y a 10 ans, avec cette sensibilité à l'environnement. Mais ça fait partie, c'est le plus récent, donc vous voyez que nous n'en avons pas fait depuis Supervielle.
Et bien on arrive déjà à la fin de cette émission Coralie Danou, on a la veille du week-end, comment se passe un week-end pour une présidente de département?
Alors ce week-end est particulier puisque c'est le baptême de ma petite nièce, donc je vais avoir mon samedi qui est réservé pour ça, et puis après donc c'est un week-end particulier, mais sinon en effet ça va reprendre sur les inaugurations. Je me consacre le dimanche après-midi parce que souvent j'ai un tas de paraffeurs à faire le dimanche après-midi, voilà. C'est une vie palpitante, mais d'un épanouissement, et j'espère que vous l'aurez entendu, j'ai beaucoup de bonheur à exercer cette belle fonction au service de tous les Deux-Sévriens.
Eh bien, merci d'avoir passé cette heure avec nous, Coralie Danou, présidente du département depuis 8 mois maintenant, depuis juillet 2021. Merci à vous également, Dominique Guinfolo pour La Nouvelle République et Guillaume Reynaud pour Le Courrier de l'Ouest.